Toujours avec vous, Adam Bailly, pour évoquer l'actualité de l'Union européenne. Alors, elle est compliquée en ce moment. Et on va faire preuve un peu de pédagogie pour la seconde partie de notre rendez-vous. Vous vouliez nous proposer un tour d'horizon du fonctionnement du budget européen. Ce sera utile, effectivement.
En effet, on voit régulièrement les aides apportées par l'Union européenne à différents pays, mais est-ce que cela représente une grande partie du budget? Donc globalement, toutes ces politiques, ça représente 168,6 milliards d'euros, et c'est ce que justement l'Union européenne prévoit de dépenser en 2023.
168,6 milliards d'euros, on a du mal à concevoir.
Exactement.
C'est colossal. D'où vient cet argent, Adam?
Eh bien, les deux tiers du budget sont directement alimentés par les États membres, qui versent chaque année une contribution. Celle-ci est calculée pour chacun en fonction de son revenu national brut, qui donne une idée de sa richesse. C'est donc l'Allemagne qui en finance la plus grande partie, environ 24% en 2023, suivie de la France, 18%. Le reste est notamment financé par une petite partie de la TVA collectée par les États membres et reversée à l'Union européenne, ce qui représente à peu près 12% en 2023, et aussi les droits de douane que l'Union européenne prélève à ses frontières, 13%. D'autres sources diverses, taxes sur le personnel européen, contributions des pays tiers à certains programmes, amendes aux entreprises et soldes de l'année précédente, compte pour à peine 3% du budget. Contribue également tout ça à gonfler le budget, tout comme la contribution du Royaume-Uni qui représente quand même 6% du budget en 2023.
Le Royaume-Uni qui contribue toujours. Comment le budget est adopté?
Eh bien, ce budget européen est voté chaque année par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Mais c'est un cadre financier pluriannuel qui fixe tous les 7 ans l'enveloppe budgétaire de l'Union européenne et le montant maximum dédié à chacune de ses politiques. Ce cadre permet de prévoir à plus long terme là où l'Union européenne doit concentrer ses dépenses. Il est important de rappeler que les États membres, étant les principaux contributeurs au budget européen, ce sont eux qui, lors d'un Conseil européen, déterminent à l'unanimité son montant.
Comment est-il dépensé ce budget? Adam, vous évoquez régulièrement dans notre rendez-vous les aides qui sont apportées par l'Union européenne à des pays qui sont en proie à des difficultés, à des pays souvent en dehors de l'Union européenne. Est-ce que cela représente une grande part du budget?
Eh bien, en 2023, et comme depuis de nombreuses années, l'essentiel des dépenses européennes, plus de 63%, est consacré à la politique agricole commune, à la PAC, et à la politique de cohésion. La première subventionne avant tout les agriculteurs et le développement des territoires ruraux. La seconde vise à réduire les écarts de développement en soutenant avant tout les régions européennes défavorisées. Elle y cofinance des projets favorisant notamment l'emploi, les PME et la recherche. Les postes des dépenses suivants sont l'action extérieure, donc la diplomatie, l'aide au développement, l'aide humanitaire, donc qu'on mentionne souvent, et le soutien aux pays candidats qui représente 8% du budget. L'aide à la recherche et à l'innovation représente lui aussi 8%. Les investissements stratégiques, donc programme InvestEU ou mécanisme pour l'interconnexion en Europe, 3%, et le programme pour la mobilité Erasmus, 2%. Enfin, l'Union européenne met en œuvre de nombreux autres politiques et programmes représentant chacun moins de 2% du budget. La gestion des migrations, l'espace, la défense.
Si on reste sur la France, quel est son apport? Quel est l'apport de la France au budget européen et quels sont les bénéfices?
Eh bien, avec 27,2 milliards d'euros versés en 2023, la France est un des plus importants contributeurs au budget de l'Union européenne, donc derrière l'Allemagne. Elle est également l'un des pays qui bénéficie le plus de ces fonds européens. Donc certes, la France verse plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit, mais elle devrait rester le premier pays à bénéficier des dépenses relatives à la politique agricole commune que l'on a mentionnée précédemment. 66 milliards d'euros doivent ainsi lui être versés entre 2021 et 2027 à ce titre. Les autres fonds à destination de la France sont consacrés en majorité à des actions de cohésion économique et sociale afin d'aider les régions à se développer ou à innover, ainsi qu'à des programmes aussi de recherche et de développement. En contribuant au budget européen, la France peut participer aussi à des projets de grande envergure qu'elle ne pourrait financer seule. On pourrait mentionner Galileo, le GPS européen, ou Copernicus, le programme européen de surveillance de la Terre. Il y a aussi d'autres programmes de recherche sur la fusion nucléaire, par exemple.
Eh bien merci, c'était très clair. On va passer à un autre sujet, là aussi les précisions seront utiles. On va s'intéresser au rôle du député européen. Quel est-il ?
Alors, il faut déjà savoir que depuis le départ du Royaume-Uni le 31 janvier 2020, il y a 705 députés qui occupent le Parlement européen. Il y en a 79 pour la France, et pour la prochaine mandature, justement, cela va passer à 720 députés, et 2 de plus pour la France, 81.
720 députés au total, je réitère ma question, à quoi servent-ils ?
Eh bien, ils sont élus pour 5 ans par les citoyens européens, donc les eurodéputés les représentent directement au sein de l'Union européenne. Pendant leur mandature, les élus ont pour fonction de discuter, d'amender et de voter les textes de loi proposés par la Commission européenne. Toujours en cherchant un certain consensus avec le Conseil de l'Union européenne, qui valide également les textes. Donc le Conseil de l'Union européenne sont composés des ministres des États membres. Le Parlement vote également le budget de l'Union européenne et dispose de divers moyens de contrôle sur les institutions européennes. Il approuve la composition de la Commission, peut constituer des commissions d'enquête et même censurer la commission qui doit alors démissionner.
Et comment s'organise-t-il ?
Au sein du Parlement, les députés rejoignent au moins un ou une, souvent plusieurs, même commissions thématiques permanentes chargées d'examiner les textes de loi. Les députés appartiennent à des partis politiques nationaux qui s'associent pour former des groupes transnationaux. Contrairement aux partis dans certains parlements nationaux, les groupes ne peuvent pas imposer de consignes de vote aux députés. Ils sont chargés de déposer des amendements avant chaque vote de texte en plénière.
Et quel est l'emploi du temps finalement d'un député ?
Eh bien, le calendrier du Parlement prévoit des périodes consacrées aux différents types de travaux menés par les députés. D'une manière générale, pour les affaires purement législatives, donc les votes par exemple, 4 jours consécutifs par mois sont alloués aux sessions plénières. Elles y ont lieu publiquement, dans l'emblématique Parlement de Strasbourg. L'ensemble des députés s'y réunissent pour débattre des textes, mais surtout voter leur adoption ou leur rejet.
Donc ça, c'est 4 jours par mois, consécutifs.
Exactement. Et donc c'est là où ils se réunissent tous pour voter les textes proposés par la Commission. Et au moins 4 autres jours, mais parfois plus, sont dédiés aux réunions des commissions parlementaires. Les commissions ont pour mission d'étudier en profondeur les textes de loi proposés par la Commission européenne et de les amender avant de les soumettre à la plénière, donc le grand vote qu'on a juste mentionné juste avant. Enfin, concernant l'activité plus politique, une semaine par mois est consacrée au travail en circonscription parce qu'ils ont aussi des territoires en France, le temps restant destiné aux réunions des groupes politiques. Donc juste pour rappel, les élections européennes ont lieu le 9 juin 2024. Il y a seulement un tour, donc ne loupez pas le coche.
Merci beaucoup Adam et bonne journée.
Bonne journée à vous.